Vous allez bien ? Bienvenue, c'est un peu la rentrée pour nous aujourd'hui puisque c'est le premier rendez-vous de cette nouvelle saison donc de Pôle Info Santé. Je sais qu'il y a des fidèles, hein, il y en a que je reconnais à force. Merci d'être là, toujours plus nombreux et venir. Alors, nouveau rendez-vous de ce Pôle Info Santé qui a été créé il y a 19 ans, tant vous dire que l'année prochaine on va faire la fête. Vous serez avec nous, j'espère. Info Santé qui est le fruit d'un partenariat entre le CHU, dont l'une des missions est évidemment l'éducation à la santé, et puis l'Espace Mendès France, centre culturel scientifique. Et l'objectif de ce rendez-vous, bien, c'est de vous permettre d'échanger avec des professionnels de milieu hospitalier, des généralistes également, qui sont là pour répondre à vos interrogations. Nos intervenants vont se présenter, ils feront chacun un exposé d'une dizaine de minutes. Ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions. Nous passerons avec des micros et vous pourrez poser des questions. Les plus timides, parce qu'il y en a quelques-uns, pourront également poser leurs questions par écrit. Vous avez dans les documents, tout le monde a eu le petit feuillet Pôle Info Santé. Si vous ne l'avez pas, vous levez la main et on vous en donnera. Il n'y a pas de souci, il y en a. Christine passe. Voilà. Juste derrière vous, Christine, il y en a. Une dame qui a levé la main. Voilà, là-dessus, vous avez une feuille de papier qui vous permet de poser des questions. Et il suffit, quand moi je vais déambuler, de me donner la feuille et je poserai moi-même la question. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de la maladie d'Alzheimer. Alzheimer, où en sommes-nous en 2012 ? C'est la thématique. Donc vous allez pouvoir également avoir des documents, dans les feuillets que vous avez entre les mains, ces documents donc qui vont vous apporter des précisions supplémentaires. Il y a aussi une fiche d'évaluation. Alors cette fiche, elle est très importante parce qu'elle nous permet en fait de mieux répondre à vos attentes et puis à chaque fois de faire de mieux en mieux, en tout cas ce Pôle Info Santé. Cette conférence, vous l'avez compris, est également traduite à l'intention du public malentendant, sourd. On va remercier également nos deux interprètes. On va tenter d'expliquer la maladie, le diagnostic, les examens, la prise en charge, la rééducation, les ressources humaines et institutionnelles. Voilà quelques thématiques de la soirée. On va essayer pendant une heure de répondre à un maximum de questions. Je vous souhaite donc la bienvenue à cette 95e conférence Pôle Info Santé, ici à l'espace Mendès France. Je ne vais pas vous demander d'applaudir parce qu'il fait encore chaud, donc ça va. Mais pour l'hiver, vous y aurez droit. Je vais vous présenter nos intervenants. Le professeur Marc Pacalin, qui est chef de service de gériatrie au CHU, représentant du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche. Bonsoir. Docteur Foucault Dubois-Guéneux, neurologue au CHU. Bonsoir. Docteur Colline Bouillet, orthophoniste au CHU. Bonsoir. Le docteur Pierre Deltour, médecin généraliste à Poitiers. Bonsoir. Et puis le docteur François Salmon, qui est praticien hospitalier au service de médecine nucléaire. Bonsoir. Merci à vous cinq d'être là. Je vais donner donc le micro et la parole au professeur Pacalin pour démarrer cette conférence. Merci. Je vous le donne.
Merci beaucoup. Très heureux d'être là parmi vous. Je voudrais en préambule dire qu'on est très heureux d'être là pour montrer que c'est une équipe. Mais que cette équipe, aussi motivée soit-elle, elle est clairement insuffisante pour faire face à cette maladie, vous le savez bien. Je suis très heureux parce que je vois, il y a peut-être des fidèles, mais en tous les cas, il y a une assistance avec des jeunes, et c'est très important qu'il y ait des messages qui passent et que les choses soient anticipées. Et que si nous tenons le micro ce soir, puisque c'est une conférence organisée entre le CHU, qu'on remercie, et puis l'Espace Mendès France, il y a bien d'autres acteurs qui auraient droit au pupitre et au chapitre ce soir. Et donc, c'est une maladie qui nécessite une véritable synergie et l'entraide de beaucoup d'acteurs, que ce soit les réseaux, que ce soit les associations. Et donc, bien des personnes qui sont peut-être ici ce soir auraient droit au chapitre. Néanmoins, il y a les questions après la conférence. Donc, n'hésitez pas à profiter de ce moment-là pour faire passer certains messages. Donc, pour ma part, après le professeur Roger Gilles, je veux bien que tu passes. J'ai pris en responsabilité le Centre de mémoire de ressources et de recherche, qu'on appelle donc le CM2R, pour faire face à cette maladie, une maladie dont on connaît les enjeux de santé publique aujourd'hui. Très brièvement, je vous rappellerai qu'on doit le nom de cette maladie à Alois Alzheimer, qui était à la fois neurologue, psychiatre et anatomopathologiste, et qui a plus d'un siècle donc a décrit les lésions que présentait la patiente qu'il voyait en tant que neurologue, en tant que psychiatre, et dont il a fait l'analyse du cerveau au décès de cette patiente. Et puis, en 1907, il a publié ces images. Aujourd'hui, un siècle plus tard, le constat est là. C'est 25 000 patients en Poitou-Charentes qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. La maladie d'Alzheimer tire un petit peu à elle tout l'effet médiatique, mais il y a bien d'autres maladies neurodégénératives qui sont un peu plus orphelines sur le plan médiatique, mais qui sont quand même pas prises au dépourvu. 900 000 patients probablement en France, c'est toujours très difficile d'avoir des chiffres, c'est toujours des extrapolations que l'on a par rapport à des données épidémiologiques, mais 18 millions dans le monde, et puis le papy et mamie boom attendu d'ici 2025, comme l'âge est le principal facteur de risque de cette maladie, l'épidémiologie et la démographie feront que on attend 34 millions de personnes atteintes par cette maladie d'ici 2025. Je veux bien la diapositive, focus. C'est une somme de défis. En santé publique, il suffit de voir les chiffres. Humain, il n'y en a pas un seul parmi vous qui, à titre personnel ou professionnel, n'est pas confronté à cette maladie et aux soucis d'autonomie qu'elle peut engendrer. C'est un vrai souci diagnostique. Aujourd'hui, si vous avez un problème de diabète, un problème de thyroïde, on vous fait une prise de sang, on vous donne le diagnostic dans la journée. La maladie d'Alzheimer, pour arriver à un diagnostic, il faut véritablement une expertise médicale, neuropsychologique, plus d'autres outils qu'on va développer ce soir et qui méritent en tous les cas qu'une équipe ensuite arrive à regrouper tous les résultats pour peut-être donner un diagnostic et expliquer la situation. Et puis, c'est le plus gros défi thérapeutique du XXIe siècle. Aujourd'hui, il existe des traitements sur lesquels je reviendrai, mais malheureusement, alors qu'il y a 10 ans, les uns et les autres ont annoncé que d'ici 10 ans, un traitement serait trouvé, force est de reconnaître que nous avons beaucoup d'échecs à comptabiliser à ce jour. Diapo. C'est une vraie prise en considération. Bien sûr qu'elle est insuffisante, mais elle est manifeste. Et sur cette diapositive, je me suis permis de mettre en exergue quelques personnes. Reagan, mine de rien, c'est celui qui, de par sa fondation aux États-Unis, a permis, il y a maintenant 20 ans, 18 ans, de lancer une dynamique importante au niveau de la recherche. C'est le plan Alzheimer. Le plan Alzheimer, avec ses 44 mesures, c'est le troisième plan qui va finir le 30 janvier prochain. Mais le président Hollande a annoncé un quatrième plan Alzheimer. Ce plan Alzheimer, les 44 mesures ne sont pas toutes déclinées aujourd'hui avec la même dynamique. Certaines sont malheureusement insuffisamment développées. Néanmoins, ce plan Alzheimer, je peux vous dire que tous les pays européens nous l'envient parce que la France reste quand même leader. Et puis là, je me suis permis de manière un petit peu synthétique de lister tous ceux qui font partie du puzzle pour offrir la meilleure prise en charge. Et aujourd'hui, des aidants avec un grand A, aux soignants et la formation nécessaire, aux médecins traitants qui sont les piliers incontournables. Et ce soir, je suis très heureux qu'on ait Pierre-Joseph Deltour avec nous. À ce que vous connaissez, si vous êtes un petit peu confronté à cette maladie, les unités Alzheimer au sein des maisons de retraite qu'on appelle EHPAD, l'acronyme voulant dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, aux unités cognitivo-comportementales qui sont des unités déclinées à l'échelon départemental, il y en a une au CHU, aux accueils de jour insuffisants en nombre qu'il y a au sein des EHPAD, maintenant aux équipes spécialisées Alzheimer qui peuvent temporairement intervenir au domicile, à l'importance de la consultation mémoire et de la recherche, sans oublier qu'il peut y avoir des patients très jeunes, et vous avez une association à Madiem qu'on doit saluer, avec la collaboration bien sûr avec France Alzheimer. Diapo. Tous ces acteurs, ils ont besoin d'être fédérés. On a besoin de structurer. Et là, il y a eu des gros progrès. Bien sûr qu'aujourd'hui, au niveau thérapeutique, les comptes n'y sont pas. Mais pour arriver à un diagnostic, il y a aujourd'hui une véritable fédération qui est réalisée au niveau de chaque région. Et pour le Poitou-Charentes, c'est donc le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche, CM2R, l'acronyme étant CM2R, en lien avec tous les politiques, en lien avec France Alzheimer, et dont les missions sont très importantes, des missions de recours, c'est-à-dire que par rapport à des difficultés diagnostiques, le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche doit pouvoir intervenir, des missions de formation et d'enseignement, des missions d'éthique ô combien importantes et qui sont bien sûr menées de main de maître par le professeur Roger Gilles, et enfin des missions de recherche à la fois sur le plan diagnostique et sur le plan thérapeutique. Diapositive. Dans un premier temps, je me permets donc de passer la parole au docteur Foucault Dubois-Guenot, qui est neurologue et qui travaille bien sûr de manière très efficace au Centre Mémoire de Ressources et de Recherche et qui va donc développer ce propos.
Merci. Alors, diapositive suivante. Donc, juste un petit rappel concernant en fait l'analyse de la plainte dans cette maladie. C'est une maladie bien particulière qui n'a pas de symptômes objectifs. Donc, il y a un intérêt tout particulier pour une plainte qui est entièrement subjective et qui peut se réduire à peu de choses finalement quand on est confronté au patient. Les patients disent souvent il oublie. L'oubli voulant dire plein de choses. Ça, c'est un premier élément. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'approche diagnostique la plus rationnelle par rapport à cette maladie, qui est restée longtemps considérée comme autre chose qu'une maladie, la prise de conscience reste relativement récente, c'est une corrélation anatomoclinique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une concordance entre, d'une part, la plainte subjective du patient, d'autre part, les tests qui objectivent la plainte, ensuite les examens complémentaires, que ce soit l'imagerie ou que ce soit les marqueurs qu'on aura dans la ponction lombaire. Tout ça, ce sont des éléments d'information qui sont très différents, puisqu'il y en a qui sont du registre de la cause, quand je parle des marqueurs dans la ponction lombaire, d'autres qui ont une valeur topographique sur le cerveau, au niveau de l'imagerie, et d'autres qui sont simplement des symptômes et qui ont une certaine valeur diagnostique. Le diagnostic peut être porté à un stade très précoce s'il y a une excellente corrélation entre tous ces éléments. À l'inverse, on ne peut pas accorder, et ça je crois que c'est un élément très important, accorder 100% de crédit à l'un de ces plans. C'est des plans qui sont complémentaires. Ça veut dire que l'approche rationnelle, c'est une méthode hypothético-déductive, si j'ose dire. On doit faire des hypothèses avant de lancer les explorations suivantes. Donc on écoute le patient, il a une plainte, on analyse sa plainte, et en fonction de ça, on demande un test particulier. Si le test le vérifie, alors on a une certaine confirmation. Et à partir de là, on fait une hypothèse topographique sur la localisation du cerveau qui est concernée. Et fort de cette hypothèse topographique, une fois qu'on a réuni ces éléments, on peut ensuite envisager une étiologie et éventuellement la maladie d'Alzheimer. Sans ça, l'oubli, ça peut être tout. Il y a des oublis par simple surmenage, trouble de l'attention, n'importe qui oublie, un état dépressif, un état d'anxiété, des problèmes vasculaires, des problèmes inflammatoires. Tout peut provoquer des oublis. Et comme je dis souvent... tout ce qui touche le cerveau, à un moment ou à un autre, se manifeste par des oublis. Donc il faut aller plus loin que ça. Et là, c'est presque le rôle des patients de nous aider à préciser les choses. Donc là, un exemple, si vous voulez, j'ai décliné les choses en fonction de l'OMS. Si vous voulez, il faut distinguer la lésion. Il faut que les idées soient bien claires dans les esprits. Il y a la lésion qui relève de l'anatomie, à laquelle on n'a pas accès. Il y a l'incapacité qui est le test objectif, qui relève de l'examen clinique, l'examen neuropsychologique. Et puis, il y a le handicap, c'est-à-dire ce qui se passe à la maison et auquel nous, on n'aura jamais accès. Donc, il y a un certain nombre de comportements dans l'environnement habituel et qui ne peuvent être apportés que par le patient ou son entourage et qui orientent fortement le diagnostic. Diapo suivante. Alors, par exemple, ce qui avait été mis en place, ce sont les IADL, Instrumental Activity of Daily Living, les activités de la vie quotidienne. Donc, on essaye, en fait, d'interroger les patients pour orienter un peu l'entretien sur des activités courantes que tout le monde partage pour arriver à déterminer, d'une part, l'autonomie. Est-ce que le patient est capable de réaliser tous ces actes? Alors, il y a des actes très élémentaires qui sont touchés très tardivement, toilettes, habillage, etc., d'autres qui sont un petit peu plus complexes mais qui tiennent dans la maison, et puis d'autres qui nous mettent en contact avec l'extérieur et qui, comme par hasard, sont touchés plus précocement. Voilà, c'est pas tout. Il faut aller plus loin que ça. En consultation, il faut savoir d'abord, comme je dis, où, quand, quoi, comment, qui se plaint d'abord. Parce que quand, en général, un patient se plaint de lui-même, il faut savoir que c'est pas forcément de la mémoire. Ça peut être de l'attention. La mémoire, quand elle est touchée, on oublie qu'on oublie. Et donc, le patient n'a rien à dire. Un patient qui a un authentique trouble de la mémoire ne se plaint pas de ses oublis. Si on se plaint de sa mémoire, c'est qu'on a bien dû en conserver quelque part un souvenir. Donc, qui se plaint ? Depuis quand, qui est une espèce de paradoxe, quand on se retrouve à demander depuis quand vous avez des troubles de la mémoire à quelqu'un qui a des troubles de la mémoire, ça ne donne pas grand-chose. Dans quel lieu, comme je vous disais, souvent c'est très fragile dans un environnement qui n'est pas familier, qui est à l'extérieur du milieu de l'environnement habituel, de la maison. Et puis surtout, quoi ? Qu'est-ce qu'il ou elle oublie ? Donc, quelqu'un qui me dit il égare ses affaires, ça veut dire quoi ? C'est pas du tout pareil de perdre ses clés, d'égarer ses lunettes, ce qu'on fait tous. C'est une autre chose que de ranger les verres dans un mauvais placard, alors qu'on le fait depuis 20 ans. Donc, si vous voulez, la nature de l'oubli a beaucoup de valeur. Par exemple aussi, quelqu'un, il faut analyser, oui, le comportement, quelqu'un qui se répète. On dit souvent, voilà, l'oubli à mesure, mon mari ou mon épouse se répète tout le temps. Mais se répéter, rien que pendant la consultation, je suis obligé de poser quelques questions pour affiner les choses. Parce que sinon, en fait, il se répète et puis quelques secondes plus tard, il me dit « Oui, mais il n'entend rien. » Donc, il y a mille façons de se répéter, ou de faire répéter. C'est qu'il n'entend pas, c'est qu'il ne comprend pas, c'est un trouble du langage. C'est qu'il ne retient pas, ou peut-être simplement qu'il n'écoute pas, qui relève d'un trouble de l'attention. Toutes ces façons de faire répéter orientent vers différentes fonctions et donc différentes localisations. Et donc différentes hypothèses. Diapo suivante. Alors là, c'est un schéma qui vous représente à la fois l'extension en fait, des lésions à partir du cortex hippocampique vers les régions plus associatives. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, une situation de la vie courante qu'on essaie d'analyser, c'est pas comme un test neuropsychologique, c'est-à-dire que un épisode de la vie courante, faire sa vaisselle, utiliser ou ouvrir la porte avec ses clés, conduire sa voiture, c'est complètement multimodal, c'est multisensoriel. On traite de multiples informations. Le cerveau traite tout le temps de multiples informations à la fois, donc que j'ai représentées comme ça. Donc des informations auditives, tactiles, visuelles, qui sont simultanément traitées par le système nerveux. En passant par les aires sensorielles, et puis ensuite par des aires associatives, hein, je passe sur le détail, et puis enfin traiter, mémoriser, et qui constitue notre histoire. Voilà. La question, c'est effectivement d'arriver à analyser une situation concrète à travers les questions que j'évoquais, pour essayer de discerner dans le trouble, dans l'échec à faire ceci ou cela, la fonction qui est touchée. Est-ce que c'est un problème de reconnaissance visuelle ? Est-ce que c'est un problème de langage ? Est-ce que c'est un problème de mémoire qui sous-tend en fait cette difficulté à accomplir les actes de la vie quotidienne ? Donc c'est le rôle de l'interrogatoire, mais c'est surtout le rôle des tests neuropsychologiques. Donc, je donne juste un exemple après. Donc là, voilà, ça c'est un peu technique, mais c'est pour vous donner une idée bien précise de ce que c'est que la mémoire est représentée partout dans le cerveau. Donc, les gens me disent, ils se perdent. Oui, mais moi aussi, je me perds. Il y a donc mille façons de se perdre, et pourtant, je ne suis pas inquiet quand je me perds. Est-ce qu'on se perd parce qu'on était soucieux ou préoccupé et en fait pas attentif ? Et dans ces cas-là, on se retrouve à un endroit et on se dit, bah, c'est pas là que je voulais aller, on fait marche arrière, on retrouve son chemin aussitôt. Mais ça peut être d'autres causes qui, elles, sont neurologiques. Donc j'ai distingué le défaut d'attention, qui est une façon très classique de se perdre, qui met en cause un trouble de la mémoire de travail et qui pourrait être surtout fonctionnel. Hein, quelqu'un qui est en surmenage, quelqu'un qui est anxieux, va se perdre pour ces raisons-là. Ça peut être aussi d'origine neurologique, sous-corticale. Je passe. Trois causes qu'on peut bien cerner de désorientation. Une incapacité à imaginer un plan, un problème de représentation de l'espace qui a été bien étudié en fait par différents auteurs. L'incapacité à faire un plan pour aller d'un point A à un point B, c'est pas une fonction très simple, c'est une fonction qui est assez spécifique à l'homme. Faire une vue d'avion et générer mentalement une carte à partir d'un trajet qu'on parcourt couramment, c'est une fonction très élaborée. Cette fonction-là peut être touchée spécifiquement. en rapport avec une lésion qui va se trouver dans la région singulaire postérieure, précuneus, peu importe, avec un nom même technique, une planotopokinésie. On va trouver des gens qui vont avoir un déficit appelé planotopokinésie, qui n'est rien d'autre qu'une incapacité à faire un plan. Sinon, de façon plus basique, un défaut de reconnaissance visuelle. Si le patient n'est pas capable d'identifier sur un trajet, de reconnaître des points d'accroche, des repères, tel immeuble, tel carrefour, tel magasin, simplement parce qu'il ne l'identifie pas visuellement, c'est une vraie raison de se perdre. Ça s'appelle l'agnosie des lieux. Et c'est en rapport avec une zone qui se trouve dans le cortex occipital, qui traite l'information visuelle, gyrus linguale et fusiforme. Et enfin, on arrive à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la manière de se perdre des patients qui ont une maladie d'Alzheimer. C'est une perte de familiarité pour des lieux connus. Et là, ça s'appelle l'amnésie topographique. Ça veut dire que là, il ne s'agit pas de faire un plan, il ne s'agit pas de reconnaître visuellement, il s'agit... c'est même quelque chose qui est étudié chez des vertébrés inférieurs, comme la souris, dans des labyrinthes. Eh bien, c'est quand nous parcourons un trajet, de façon très automatique, on enregistre, au fur et à mesure qu'on parcourt ce trajet, dans un couloir, un labyrinthe, à l'hôpital, on enregistre un flux optique. On ne fait pas un plan. C'est un flux optique, on parcourt un trajet. Et on stocke... On enregistre cette information. Cette information qui est vraiment vécue de mon point de vue, elle est stockée probablement spécifiquement dans la région hippocampique. Et c'est elle qui est touchée dans la maladie d'Alzheimer. Elle pourrait être représentée comme ça. Vous voyez, on fait des tests avec des labyrinthes virtuels. Ça s'appelle l'amnésie topographique. On a pu constater qu'une lésion de quelque chose qui est tout près de l'hippocampe au niveau des gyrus parahippocampiques donne ce type d'amnésie. Voilà, donc en bref... si vous voulez, il faut, au cours de la consultation, analyser la plainte. Alors, premièrement, se rassurer, ça veut dire que tout ce qui est oubli, enfin, tout ce qui relève du cerveau donne des oublis, oubli de nom, des gestes, de tout, tout est oubli. Et un oubli n'est pas nécessairement neurologique. On peut oublier pour plein de causes fonctionnelles. Il suffit que le cerveau soit un peu débordé pour oublier. Donc, ce n'est pas forcément un signe d'alerte de quoi que ce soit. Ça va être ensuite, en discutant avec le clinicien, l'analyse du trouble lui-même qui va permettre de supposer qu'il y a un dysfonctionnement à tel ou tel endroit. En fonction de ça, on va demander un bilan neuropsychologique. Voilà.
Merci Foucault. Vous voyez donc à cela que c'est chronophage, ça demande du temps et qu'il faut une consultation dédiée pour écouter le patient, écouter ses plaintes, écouter les proches, connaître l'histoire du patient, son vécu, ses antécédents, ses traitements, et après faire cette expertise médicale à ce premier stade. Ensuite vient le temps où le médecin dit qu'il faut une expertise neuropsychologique plus complète, et c'est en cela que Colline Bouillet interviendra. Et avant qu'elle n'intervienne, je vais vous parler avec le docteur François Salmon des examens complémentaires qu'on pourrait être amené à faire. Ces examens, ils ont pour objectif probablement de conforter l'hypothèse diagnostique que le médecin aura émis au décours de sa consultation, d'éliminer plein de diagnostics différentiels, puisque, comme l'a dit Foucault, plein de choses peuvent entraîner éventuellement un oubli, et éventuellement à l'avenir, s'ils sont validés, ces examens pourraient nous aider à faire un diagnostic à un stade très précoce. Diapo. Ces examens complémentaires, ils vont totalement dépendre vraiment des lésions princeps de la maladie. Ces lésions princeps, je vais vous les imaginer très rapidement, elles sont essentiellement au nombre de deux. C'est ce qu'on appelle la plaque amyloïde. Considérez que cette plaque amyloïde, c'est comme une toile d'araignée qui étouffe le neurone. La seconde lésion, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence neurofibrillaire. Cette dégénérescence, elle est à l'intérieur du neurone. Et vous voyez donc qu'il y a déjà deux types de lésions princeps qui conduisent à la mort neuronale, c'est cette plaque amyloïde toile d'araignée qui étouffe le neurone et cette lésion intraneuronale. Et puis, il y a forcément une réaction interne au cerveau qui est l'inflammation. Quand on se cogne le genou, on a une bosse. Mais le cerveau, quand on l'embête, il va s'inflammer. Probablement que cette inflammation est bénéfique au départ et réactionnelle, mais que malheureusement, ensuite, elle est un peu hypertrophiée, qu'elle devient délétère. Et c'est un peu notre cheval de bataille à Poitiers. Diapo. Rapidement, la plaque amyloïde, tu peux appuyer plusieurs fois. Foucault, tu vas avoir un petit jeu. La plaque amyloïde, c'est une protéine qu'on a tous normale et qui va être anormalement détruite dans la maille d'Alzheimer selon une voie qui n'est pas la voie attendue, avec des enzymes qu'on appelle les sécrétases et qui, tu peux appuyer encore une fois, donnent naissance à ces protéines qui s'agrègent et forment cette toile d'araignée qui étouffe le neurone. Cette protéine amyloïde, elle l'est dans la maladie puisque les formes jeunes qui touchent 5 à 6 000 patients en France sont dues à des mutations chromosomiques qui activent anormalement ces enzymes délétères. Donc cette protéine amyloïde, elle fait partie de la maladie. Diapo. L'autre lésion, et tu peux appuyer plusieurs fois, il y a aussi une petite animation, c'est cette protéine qui est une protéine normale qu'on appelle la protéine TOTAU et qui, dans maille d'Alzheimer, tu peux appuyer, a des sites phosphores en excès, elle est hyperphosphorylée, tu peux appuyer, et cette anomalie de phosphorylation conduit à cette dégénérescence neurofibrillaire DNF à l'intérieur du neurone qui est donc délétère. Et là, on sait clairement que cette lésion est également partie prenante de la maladie, car c'est tout à fait le petit schéma que Foucault montrait tout à l'heure. Vous avez vu des zones grises qui diffusaient de plus en plus au niveau du cerveau. Il y a une corrélation très claire entre la diffusion de ces lésions dans le cerveau et les symptômes que présente le patient. Donc clairement, on ne connaît aucun patient Alzheimer qui soit décédé, qui ait donné son cerveau pour analyse à la science, qui n'ait pas ces lésions-là. A contrario, bien des gens qui décèdent et qui donnent leur cerveau pour analyse ont ces lésions alors qu'ils n'ont pas présenté les symptômes de la maladie. Et donc là, ça s'appelle la réserve cérébrale qu'on abordera peut-être secondairement pour ne pas trop altérer le topo. Vas-y, Foucault, diapo. Dans les examens complémentaires, le plus symbolique, c'est ce qu'on appelle l'imagerie standard. Vous connaissez tous le scanner cérébral. Et bien aujourd'hui, il y a mieux, c'est l'IRM cérébral. Vous connaissez tous les IRM, même si on est le pays européen qui a le moins d'appareils IRM. Eh bien, les radiologues se sont appropriés l'imagerie de la maladie d'Alzheimer. Et Foucault Dubois-Guenec, tout à l'heure, a cité l'atteinte hippocampique. Il vous a cité ce terme-là. L'hippocampe serait et le lieu princeps d'atteinte de la maladie. Et nous, on a vu depuis 5-6 années les imageurs, les neuroradiologues, qui vont visualiser plus précisément l'hippocampe et essayer d'en mesurer le volume, pour dire que l'hippocampe est éventuellement anormalement petit, et donc peut-être que ce pourrait être dû aux lésions de la maladie d'Alzheimer. Diapositive. Je passe maintenant le micro à François Salmon, qui travaille dans le service de médecine nucléaire au CHU, et dont son expertise est particulièrement importante pour nous.
Merci Marc de me passer la parole. Alors la médecine nucléaire, c'est une méthode d'imagerie qui utilise des méthodes différentes de celles de nos collègues radiologues. Bon, ça, ce sont des images d'IRM que vous aviez sur la plaque précédente et qui montraient justement cette dégénérescence progressive des hippocampes. Là, bon, on a représenté juste l'hippocampe droit, mais il y a le gauche, bien sûr, de l'autre côté. Alors, quel intérêt d'imager les hippocampes ? Eh bien, c'est là où commence la dégénérescence neurofibrillaire. Ça a été très bien montré par des anatomopathologistes que certains connaissent sous le nom de Braque et Braque. C'était un couple qui travaillait en anatomie pathologique. Et la DNF, la dégénérescence neurofibrillaire, va débuter donc par ces régions-là. Et c'est pour ça que les anatomistes vont se pencher sur ces hippocampes. Nous faisons aussi des IRM chez tous les patients pour déceler une autre cause qui pourrait être à l'origine de troubles neurologiques, et bien sûr les tumeurs cérébrales. Le but des IRM est donc aussi d'éliminer des tumeurs cérébrales, ce qui est exceptionnel, mais ça peut être des causes curables. Il peut y avoir aussi des hématomes cérébraux qui peuvent créer des troubles neurologiques. Donc l'IRM a plusieurs fonctions. En imagerie scintigraphique, en imagerie fonctionnelle, on ne fait plus d'anatomie. Nos images sont assez grossières sur le plan anatomique, mais ont pour but de rendre visibles les dysfonctionnements cérébraux. Alors, cette vue 3D, vue par le bas, on voit un cerveau par le bas, montre très bien l'altération des régions temporales internes et notamment des hippocampes. Ce sont ces régions représentées ici en rouge chez un patient qui n'avait pas une maladie d'Alzheimer, mais qui avait une insuffisance vasculaire. Alors, on touche du doigt ici quelque chose de particulier, c'est que nos images vont montrer des dysfonctionnements de certaines zones du cerveau, mais qui ne sont pas spécifiques de la maladie d'Alzheimer. Je veux dire par là que autant on va pouvoir montrer des dysfonctionnements des zones cérébrales, autant il va pouvoir falloir identifier ces zones comme étant d'origine alzheimerienne ou d'autres causes par une discussion multidisciplinaire. Il n'est pas question, avec de simples images, de poser un diagnostic définitif. Ici, à titre de comparaison, un cerveau qui présente une distribution tout à fait normale du produit qu'on a injecté et qui montre que ce cerveau a un fonctionnement normal contrairement à celui-ci. Alors, l'atteinte hippocampique va se traduire par des troubles de la mémoire que Colline Bouillet va vous expliquer tout à l'heure par des tests. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, au-delà de la scintigraphie dont je vous ai présenté un exemple tout à l'heure, nous avons des méthodes d'imagerie beaucoup plus perfectionnées maintenant, et notamment le TEP, qui a été d'ailleurs inauguré par M. Claes, M. le directeur de l'hôpital, ainsi que M. Chartier, pas plus tard que lundi dernier. Le centre TEP de Poitiers a ouvert ses portes sur le plan fonctionnel en juin pour l'installation technique, je dirais, mais l'ouverture officielle, c'était lundi dernier. La TEP au glucose va permettre d'étudier le mécanisme intime de fonctionnement des neurones. Pourquoi ? Parce que le carburant des neurones, c'est du glucose. Alors, le glucose que l'on injecte aux patients, c'est un glucose un petit peu travaillé. Il va être marqué avec une substance radioactive, mais ça, la radioactivité que l'on injecte, elle est très faible. Ces diapositives, ces représentations tridimensionnelles, représentent une cohorte de patients qui ont une maladie d'Alzheimer, et par soustraction, on observe les zones qui ne fonctionnent pas par comparaison à des cerveaux normaux. Donc, ce qu'il y a de particulier chez le patient qui présente une maladie d'Alzheimer, ça va être un dysfonctionnement de cette région-là, notamment, qui s'appelle le carrefour pariéto-temporo-occipital. C'est une région stratégique qui est une région qui va traiter des signaux multimodaux. Pour faire assez simple, le cortex occipital est responsable de la vision. Le cortex temporal va être responsable de l'audition, du traitement des sons et aussi de la mémoire. Le cortex pariétal, lui, est spécialisé dans la sensibilité. Le cortex antérieur est, lui, plus spécialisé dans la réflexion, dans la motricité, etc., et peut être également touché. Mais c'est vraiment le carrefour pariéto-temporo-occipital qui nous intéresse. Pardon. Ici, un cerveau que nous avons étudié assez récemment grâce au matériel dont nous disposons maintenant à Poitiers et qui montre des éléments d'hypofonctionnement justement de ce carrefour pariéto-temporo-occipital gauche et qui est assez spécifique de maladie d'Alzheimer chez les patients droitiers. Alors, il se trouve que ces images sortent en noir et blanc, que nous pouvons comparer ces images du patient à une banque de données de patients normaux, et c'est ainsi que l'on fait ressortir les anomalies qui nous paraissent importantes pour poser le diagnostic. Parallèlement, nous disposons d'images anatomiques en plus. Donc c'est une modalité d'imagerie qui est particulièrement performante parce qu'elle permet à la fois d'avoir des images fonctionnelles du cerveau, des images anatomiques, et de comparer ces images à une banque de données de patients normaux. Alors, l'imagerie au glucose marqué a un intérêt, c'est que les lésions causées par la dégénérescence neurofibrillaire vont engendrer des dysfonctionnements neuronaux qui vont être imagés par ce type d'imagerie. Par contre, avec ce type d'imagerie, en utilisant le glucose marqué, on ne verra pas les lésions des plaques amyloïdes. Diapositive suivante. Eh bien, un produit a été synthétisé aux États-Unis il y a environ 4 ou 5 ans, qui s'appelle l'AV45, qui est marqué aussi avec un traceur radioactif. Et lorsqu'il est injecté aux patients ayant une maladie d'Alzheimer, eh bien, ce produit va se stocker dans le cerveau, alors que chez le patient normal, le produit va fuir et ne va pas rester dans le cerveau. Donc, chez le patient qui présente une maladie d'Alzheimer, on va pouvoir voir les plaques amyloïdes et faire une cartographie des plaques amyloïdes. Donc là, on va vraiment voir ces plaques qui, comme Marc Pacalin vous le disait tout à l'heure, vont créer une toile d'araignée autour des neurones et finir par les étouffer. Alors, c'est un produit que nous n'utilisons pas de façon courante, parce que pour le moment, il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché en France, mais ça devrait venir au cours de l'année 2013. Nous l'avons utilisé, ça c'est un exemple de patient qui a été étudié à Poitiers, donc il y avait clairement des plaques amyloïdes un peu partout dans le cerveau, notamment dans les lobes frontaux. Ce produit est actuellement utilisé dans des protocoles de recherche, alors qu'aux États-Unis, il est utilisé de façon routinière. Alors, chez nous, je ne sais pas quand ça sera utilisé, mais on espère bientôt. Voilà pour l'imagerie métabolique cérébrale. Je repasse la parole à Marc.
Merci beaucoup, François. Je continue dans les autres examens complémentaires, puisque je vois que le temps tourne. À côté de ces techniques d'imagerie, vous voyez bon, l'IRM standard, ok, mais après l'imagerie fonctionnelle dont vient de parler François, déjà, vous voyez, c'est des progrès incroyables. Une autre technique d'aller chercher un marqueur, c'est par l'étude du liquide céphalorachidien, dans lequel, entre guillemets, vos neurones baignent. Et allons voir si, quand on analyse ce liquide, ces fameuses lésions dont je vous parlais, la plaque amyloïde et la protéine tau hyperphosphorylée qui donne la dégénérescence neurofibrillaire, est-ce qu'elles ne seraient pas, quand on les étudie dans le liquide céphalorachidien, des arguments pour porter un diagnostic biologique de maladie d'Alzheimer? Eh bien, ce sont des choses que l'on maintenant on décline de plus en plus en routine, mais de nouveau, c'est tout un continuum entre l'interrogatoire, l'expertise clinique, l'expertise neuropsychologique, les données de l'imagerie, l'élimination du diagnostic différentiel et éventuellement les résultats de ces examens complémentaires. Diapo. Car au bout du compte, c'est très important de ne pas dire que le résultat de la ponction lombaire fait que ce patient est Alzheimer, que le résultat de la scintigraphie fait que ce patient est atteint de maladie d'Alzheimer. Non, c'est vraiment la mise en commun de toutes les expertises qui ont été déclinées au cours des semaines de consultation et avec l'expertise des résultats des examens complémentaires. On soigne un patient, on ne soigne pas une image ou un résultat de ponction lombaire. Diapositive. Donc ce sont des progrès néanmoins indéniables que l'on a connus au cours des 10 dernières années qui nous aident à mieux comprendre la maladie et qui nous aideront probablement à diagnostiquer précocement si ces données d'imagerie et de ponction lombaire sont vraiment d'une spécificité, d'une sensibilité et tout à fait validées. Et donc c'est très important parce que ça nous aidera à faire un diagnostic précocement. Pourquoi faire un diagnostic précocement aujourd'hui? Parce que c'est très clair que si on veut espérer trouver le biscuit médicamenteux, le traitement, on est tous conscients qu'il faudra le donner à un stade très très précoce de la maladie pour éviter des lésions qui sont irréparables. Et c'est en cela que, dans la recherche, il y a des constitutions de cohorte, ces volontaires qui acceptent de participer à de la recherche, et ça, il faut les en remercier énormément. On mène cela, bien sûr, au CHU. Des gens qui ont une simple plainte de mémoire, qui acceptent de venir dans ces protocoles de recherche, parce qu'on les suit dans le temps, 6 mois, 12 mois, jusqu'à 5 ans éventuellement, pour voir cette plainte de mémoire, qu'est-ce qu'elle devient dans le temps? Est-ce qu'elle reste stable? Est-ce qu'elle évolue vers quelque chose de plus sévère? Et est-ce qu'éventuellement, elle évolue vers une maladie d'Alzheimer? Et c'est en cela que toutes les données que nous apportent ces volontaires peuvent être expertisées et nous aider à faire à l'avenir un diagnostic le plus précoce possible. Diapositive. Je passe parce que le temps presse. Diapositive. Le traitement. Le traitement au jour d'aujourd'hui, le traitement number one, c'est la réponse humaine. C'est les uns les autres, c'est des aidants, des conjoints, des familles, aux bénévoles, aux associations. La réponse, elle est humaine avec un grand H. C'est donc aujourd'hui les solutions non médicamenteuses qui priment. En attendant, la réponse médicamenteuse. Diapositive. Les médicaments d'aujourd'hui, ils ont tout pris dans la figure. L'année dernière, ça a été une envolée ils ont été stigmatisés, etc., etc., dans les différents médias, diapositives. Les choses sont très claires pour nous en tant que prescripteurs. La Haute Autorité de Santé a clairement publié ça en décembre 2011. Les traitements qu'aujourd'hui prennent les patients atteints de maladie d'Alzheimer, quand ils sont bien observés, c'est-à-dire pris tous les jours, quand ils sont bien tolérés, et pris à la dose optimale, ils apportent un bénéfice qui est validé à un an de traitement. Après un an de traitement, ça ne veut pas dire qu'il faille les arrêter, mais il faut qu'avec les aidants, la famille, le patient, bien sûr, et le médecin traitant, on juge de l'intérêt à poursuivre ce traitement. Est-ce qu'on apporte toujours un bénéfice? On a tout vu à l'échelon individuel, des patients chez lesquels on a arrêté qui ont décliné, d'autres chez lesquels on a arrêté qui n'ont pas eu de déclin particulier, mais c'est vraiment encore du niveau de l'expertise et les traitements d'aujourd'hui ne sont pas à arrêter brutalement. Diapositive. La recherche thérapeutique, c'est plus d'une centaine d'essais qui sont à la recherche dans le monde, depuis ce qu'on appelle le préclinique chez le petit animal jusqu'aux volontaires humains. Et donc, malheureusement, il y a pas mal d'échecs au jour d'aujourd'hui, mais on apprend aussi des échecs en recherche. Et il faut se porter probablement vers 2020-2025 pour espérer une réponse importante. Diapositive. En attendant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme il y a ce déclin, il faut à tout prix partir de plus haut. Donc, nourrissez votre cerveau pour avoir une réserve cérébrale qui vous permettra de compenser éventuellement des maladies qui arrivent et l'importance, bien sûr, de tous les acteurs de terrain que j'ai à nouveau listés. Je vais maintenant passer la parole à Colline Bouillet, qui est orthophoniste dans l'unité de neuropsychologie au sein du service de neurologie du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche, qui vient donc après la consultation du médecin expert pour compléter cette expertise. Alors, vous voyez, j'ai oublié ce que notre collègue technicien m'a dit pour passer d'un ordinateur à l'autre. Il suffit de voir le PowerPoint. Je suis pas sûr. Il est déjà ouvert. OK, parfait. Merci, Colline.
Merci. Donc, je vais le faire. Voilà. Donc, voilà. Le bilan de mémoire va venir à la suite de la consultation médicale. Donc, soit le patient aura vu son médecin traitant, qu'il l'aura envoyé vers le centre de mémoire et de ressources et de recherche. Soit c'est le neurologue qui l'aura déjà vu, qui va demander un bilan neuropsychologique. Donc ce bilan va se réaliser en trois temps, la phase d'anamnèse, la phase de passation de tests neuropsychologiques, et puis un entretien final. Donc l'anamnèse, elle consiste en un entretien avec le patient et son entourage s'il est présent, et elle permet de recueillir les données concernant l'identité du patient, sa date de naissance, sa profession, son niveau d'études, sa latéralité et ses antécédents éventuels. Et puis, on va également interroger le patient sur son mode de vie. Est-ce qu'il est encore actif ou retraité? Est-ce qu'il a des activités? Est-ce qu'il vit seul? Est-ce qu'il bénéficie d'aide à domicile? On l'interroge sur l'histoire de ses troubles et sur sa plainte. Mais pour cela, monsieur le docteur Dubois-Gueneux nous a déjà bien expliqué l'importance de la plainte du patient, du recueil de ses données. Donc la passation des tests va également se faire en plusieurs étapes. On va d'abord chercher à estimer l'efficience cognitive globale du patient, puis on s'intéressera à ses capacités mnésiques, ses fonctions exécutives et les fonctions instrumentales. Je vais donc vous présenter succinctement les différentes étapes du bilan. Donc pour évaluer l'efficience cognitive globale, on va utiliser des outils rapides qui permettent d'évaluer l'orientation temporelle et spatiale, le langage, la mémoire, le calcul et les praxis. Ils permettent également d'indiquer la sévérité de l'atteinte cognitive, mais s'ils sont de bons indicateurs, il faut faire attention, ce ne sont pas des outils diagnostiques. Donc je vous ai mis des exemples d'outils qu'on utilise couramment, le Mini Mental State Examination de Feulstein, l'évaluation rapide des fonctions cognitives du professeur Gilles et l'échelle de Matisse. Alors, pour envisager les fonctions mnésiques, on va s'intéresser à différents systèmes de mémoire. Tout d'abord, la mémoire autobiographique, à travers un entretien semi-structuré, en interrogeant le patient sur des faits anciens de sa vie, comme par exemple le nom de ses maîtres d'école, sa date de mariage, les différentes villes dans lesquelles il a habité. Et on va également l'interroger sur des faits plus récents, à savoir ce qu'il a fait le week-end dernier, ou ce qu'il a mangé la veille au soir, ou encore la raison de son hospitalisation, s'il est hospitalisé, bien sûr. On peut aussi utiliser des questionnaires déjà tout faits, comme le questionnaire semi-structuré de Koppelman, qui revient sur des souvenirs biographiques sur trois périodes de la vie de la personne. La mémoire sociale, elle, est appréhendée souvent à travers l'évocation des noms des présidents de la Ve République. Et ensuite, une grosse partie du bilan va s'intéresser à la mémoire épisodique verbale, souvent. Cette dernière est la mémoire qui permet de se souvenir des événements personnellement vécus dans un contexte spatial et temporel. Elle permet donc de voyager mentalement dans le temps, c'est-à-dire de revivre les expériences passées, mais aussi de se projeter dans l'avenir. Et cette mémoire est atteinte de manière précoce dans la maladie d'Alzheimer. Alors, pour l'évaluer, on utilise couramment le rappel libre, rappel indice 16, qui permet d'appréhender les trois grands processus qui sont mis en jeu, à savoir l'encodage, la récupération et le stockage des informations. Donc, ce test consiste à faire apprendre une liste de mots au patient en utilisant des catégories sémantiques pour favoriser la récupération en mémoire. Je vais donc vous montrer un petit exemple en vidéo de la phase d'encodage de la liste de mots.
Dites-moi sur cette page, quel est le nom du poisson?
Le hareng.
Quel est le nom du vêtement?
Le gilet.
Quel est le nom du jeu?
Le domino.
Quel est le nom de la fleur?
La jonquille.
Oui, c'est bien. On essaie de se les rappeler une première fois. Quel était le nom du vêtement? On ne se rappelait pas. était le nom du poisson?
Aaron.
Quel était le nom du jeu?
Domino.
Oui. Quel était le nom de la fleur?
Jonquille.
Donc il nous manque le vêtement. Qu'est-ce que c'était le vêtement? Regardez. Qu'est-ce que c'est?
Oh, gilet.
Qu'est-ce que c'est le nom du vêtement?
Gilet.
Oui, c'est bien.
Voilà, et donc je vous montre une phase de rappel. Là, il s'agit d'une personne qui est déjà un petit peu en difficulté sur cette épreuve.
Vous voulez me rappeler les mots qu'on a appris? Quels étaient ces mots?
Groseille, je crois.
Oui, c'est très bien. Continuez. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Quel était le nom de la fleur? C'est la jonquille. Quel était le nom de la profession? Le métier.
Ensuite, on évalue aussi la mémoire sémantique qui regroupe les connaissances sur le monde, comme le sens des mots, les savoirs sur les objets, sur les personnes, les données culturelles et géographiques. Donc on va l'évaluer à travers des définitions de mots ou alors des appariements catégoriels ou fonctionnels, comme là, est-ce que vous pouvez me dire laquelle des deux images du bas va avec celle du haut? Et la mémoire de travail, qui est le système de capacité limitée, qui permet un maintien temporaire et une manipulation mentale d'informations. On peut donc l'évaluer en modalité verbale, avec des empans de chiffres, en demandant au patient de restituer une série de chiffres en ordre en droit, ou alors en ordre envers, ce qui demande une manipulation. On l'évalue aussi en modalité visuelle, en montrant successivement des blocs au patient, qu'il remonte ensuite soit dans le même ordre, soit en ordre inverse. Nous nous intéressons aussi aux fonctions exécutives qui permettent la réalisation de tâches nouvelles nécessitant de formuler un but, de planifier les différentes séquences qui permettront d'atteindre ce but, de comparer les différentes possibilités, de mettre en œuvre un plan d'action, de le surveiller et de vérifier le résultat. Alors pour évaluer ces fonctions exécutives, il existe une multitude de tests et je vous ai mis en exemple le trail making test qui est l'un des plus courants. Donc celui-ci permet d'évaluer la vitesse idéomotrice en demandant à la personne de relier les chiffres par ordre croissant, du plus petit au plus grand, en allant le plus vite possible. Puis on complique la tâche en lui demande d'alterner entre les chiffres et les lettres. Donc on va relier 1 A, 2 B et ainsi de suite. Et ça demande de shifter entre les deux critères. Donc les fonctions instrumentales, elles regroupent le langage, les praxis et les gnosis. Le langage, lui, va être envisagé à travers le discours spontané du patient, mais aussi à l'aide d'épreuves, comme la description d'une image, des épreuves de dénomination d'image. On demande aussi au patient d'écrire, et puis on lui fait évoquer le plus possible de mots pour voir son accès à son lexique sémantique. Alors, les praxis sont envisagées principalement sous deux formes, les praxis idéomotrices, qui sont des gestes simples, réalisés sans manipulation d'objets réels. L'atteinte de la réalisation de ces gestes s'appelle la praxis idéomotrice. Donc pour l'évaluer, on va demander au patient de réaliser des gestes significatifs, comme par exemple « faites-moi le salut militaire » ou des mimes d'action « montrez-moi comment vous faites pour planter un clou avec un marteau ». Ou alors encore des gestes non significatifs, par exemple, est-ce que vous pouvez faire comme moi? On regardera aussi les praxis constructives qui représentent la capacité à construire, c'est-à-dire à assembler des éléments dans les deux ou les trois plans de l'espace. Leur atteinte est la praxis constructive et pour l'évaluer, on va demander au patient de faire des dessins, un carré, un cube ou une maison, ou alors un dessin abstrait plus complexe. On peut aussi lui demander de réaliser un puzzle. Les gnosis visuelles sont la capacité à percevoir une image, l'identifier et lui rattacher une signification. Leur atteinte est la gnosis visuelle et au cours du bilan neuropsychologique standard, on s'intéresse essentiellement à la gnosis aperceptive, c'est-à-dire l'incapacité à identifier l'objet. Donc pour cela, on présente des figures enchevêtrées et on demande au patient ce qu'il perçoit dans ces images. Voilà, donc à la suite de la passation des tests, on propose un entretien pour terminer le bilan. Ça va être un moment d'échange avec le patient sur son vécu de la passation des tests, sur son état de fatigue, ses questionnements. On va également lui apporter quelques explications concernant nos observations cliniques et les résultats obtenus au test. Et puis, on va lui proposer de rencontrer un neurologue du service, ou de le revoir s'il l'a déjà vu avant, qui fera le point sur la plainte, sur les résultats obtenus au test et proposera éventuellement des examens complémentaires comme l'IRM, la scintigraphie cérébrale ou encore une ponction lombaire. Et c'est le moment aussi où la question d'une prise en charge orthophonique est abordée, ou alors on peut proposer au patient un suivi psychologique. Donc je vais juste vous faire un petit point sur ce qu'est la prise en charge orthophonique pour les troubles de la mémoire. Donc elle peut se faire de deux façons, elle peut être individuelle. Alors, dans ces conditions-là, l'orthophoniste va s'attacher au stade débutant à stimuler les fonctions de mémoire préservées en utilisant des techniques de rééducation qui sont aussi utilisées chez d'autres patients, par exemple des patients victimes d'AVC ou de traumatismes crâniens. Il s'agira là de mettre en place des moyens stratégiques de mémorisation. Et puis par la suite, l'orthophoniste va s'attacher à maintenir les fonctions cognitives préservées du patient à travers différents supports, et par exemple la mise en place d'un carnet de mémoire ou l'apprentissage de l'utilisation du calendrier. Et puis on peut aussi proposer au patient de participer à des ateliers mémoire qui sont en fait des prises en charge de groupe, au cours desquels des exercices de réminiscence sont pratiqués, faisant appel aux connaissances du patient et à ses souvenirs de vie. Donc ces groupes permettent le maintien d'un échange social et une stimulation de la communication. Enfin, il est important que l'entourage s'intègre à la prise en charge du patient, parce qu'en comprenant les tenants et les aboutissants, il va mieux appréhender les capacités préservées du patient et celles qui sont altérées. Et cela pourra alors l'aider à ajuster son comportement au quotidien et à offrir le meilleur étayage possible. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la parole au docteur Deltour.
Merci beaucoup, Colline. Il intervient en dernier et pourtant il est en première ligne au quotidien, c'est le médecin traitant et donc c'est le docteur Deltour qui a eu la gentillesse de venir participer à cette réunion.
Donc je vais vous parler des ressources humaines et institutionnelles que nous avons à notre disposition sur Poitiers pour prendre en charge les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Celles-ci ont été, semble-t-il, améliorées ces dernières années suite à une prise de conscience collective à l'échelon national des problèmes posés par la maladie d'Alzheimer. En effet, en 2008, il était recensé à peu près 800 000 personnes atteintes par la maladie. Cette maladie entraîne également des répercussions très importantes sur l'entourage, le plus souvent familial. Répercussions qui sont à la fois financières, professionnelles et sociales. Ceci du fait de la charge de travail octroyée par cette pathologie. De ce fait, les pouvoirs publics ont décrété la mise en place du plan Alzheimer dont nous avons parlé entre 2008 et 2012. 44 mesures insistant sur la nécessité d'organiser une prise en charge globale, autour et pour le bénéfice de la personne malade et de ses aidants. Nous nous attacherons à développer dans cet exposé essentiellement les aides à la personne. Le plan Alzheimer ayant par ailleurs pour objectif le développement de la recherche et une mobilisation plus globale sur le thème maladie d'Alzheimer, maladie à enjeu de santé publique. En pratique, pour le patient et les aidants, cela s'est traduit par quatre axes. Premier axe, augmentation des capacités de diagnostic, augmentation du nombre de consultations mémoire, et création de centres mémoire de ressources et de recherche, ou CM2R, dont nous avons parlé tout à l'heure, est présent au CHU de Poitiers. Ces structures ont également un rôle d'information sur le plan médical, social et environnementale. Deuxième axe, favoriser le maintien à domicile par l'intermédiaire des développements des services à domicile comme l'aide à domicile, l'aide à la personne par le CCAS, les services de soins infirmiers à domicile par les SIAD et surtout création de l'allocation personnalisée à l'autonomie, surnommée APA, qui correspond à une prestation financière délivrée par le Conseil général, utile au financement des aides mises en place. Favoriser le maintien à domicile par la formation des aidants familiaux, avec le rôle prépondérant de l'association France Alzheimer et régionalement sur le rôle de la Mutualité de la Vienne. Plus récemment, mise en place d'équipes spécialisées Alzheimer, ESA, au sein de certains SIAD intervenant à domicile, et projet d'une plateforme de répit avec prise en charge de façon conjointe du patient et de l'aidant. Troisième axe, renforcement des structures d'hébergement au sein des EHPAD, EHPAD, établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, avec création de places d'accueil de jour et d'hébergement temporaire. Enfin, quatrième axe, création des maisons pour l'autonomie et l'intégration des maladies d'Alzheimer, surnommée MAIA, matérialisée sur Poitiers par le réseau gérontologique Ville-Hôpital de Poitiers, qui bénéficie d'une équipe d'infirmières, de coordinateurs, d'assistantes sociales, susceptibles d'assurer une coordination entre les secteurs médicaux et social, assurant la liaison entre les différents intervenants. Cette action est formalisée par la tenue de réunions multidisciplinaires, aidants, familles, infirmiers, médecins, avec pour objectif un projet de vie et un projet de soins individualisés pour chaque patient, celui-ci visant toujours à favoriser le maintien à domicile. Après cet exposé un peu théorique, je vais essayer, à travers un cas fictif, de vous exposer quel pourrait être le chemin de vie d'une patiente atteinte de la maladie d'Alzheimer. Prenons le cas de Madame Durand. Madame Durand est âgée de 75 ans. Elle vit seule à son domicile et veuve depuis plusieurs années. Elle fait de nombreux oublis, se trompe dans son traitement, n'arrive plus à faire ses comptes, et s'en rend compte. Elle décide d'évoquer le problème avec son médecin traitant. Celui-ci, sur les faits évoqués, propose une consultation de la mémoire avec son correspondant habituel, neurologue ou gériatre, hospitalier ou privé. Il juge utile également de lui prescrire le passage quotidien d'une infirmière pour la préparation du traitement et la surveillance de la prise médicamenteuse. Le médecin connaît le fils de Madame Durand, qu'il va, avec son autorisation, contacter. Nous voyons, dans le premier stade de la maladie, le rôle essentiel de coordination joué par le médecin traitant. La maladie, après une phase de stabilité, s'est progressivement aggravée. Madame Durand a besoin d'aide pour la toilette. Il est fait appel au SIAD. Une aide ménagère s'avère nécessaire, notamment pour la préparation et la surveillance du repas à midi. Une téléassistance est également instaurée. Une protection juridique est envisagée, mais jugée non nécessaire. Une demande d'APA pour subvenir à toutes ces nouvelles dépenses est effectuée, d'autant qu'un accueil de jour en EHPAD avait été évoqué au vu de l'isolement de la patiente et d'une éventuelle future admission. Une pathologie aiguë est survenue. Suite à une chute, Madame Durand a dû être hospitalisée. Suite à un passage en chirurgie orthopédique, puis en soins de suite et de réadaptation au sein du service de gériatrie, le réseau Ville-Hôpital est contacté. Contacté pour envisager un retour à domicile. Il effectue une évaluation des conditions de vie à domicile, des aides nécessaires, des ressources financières et des actions à mettre en place. Différents intervenants sont mobilisés, kinésithérapeute, ergothérapeute, aménagement de l'habitat, garde malade. Tout ceci permet le maintien à domicile. Plusieurs années se sont écoulées. Madame Durand perd confiance en ses capacités et, sur les conseils de son entourage, préfère se rendre en EHPAD, où elle a déjà séjourné l'été précédent en hébergement temporaire durant l'absence de ses enfants. On peut désormais espérer qu'elle retrouve en ce lieu une vie conforme à ses attentes, avec un environnement humain et bienveillant. J'ai essayé dans ce court exposé de vous décrire ce qui actuellement peut être considéré comme une filière gériatrique, filière évolutive que nous retrouvons sur le Grand Poitiers, qui semble adaptée à la prise en charge médicale et sociale d'un patient présentant une maladie neurodégénérative type maladie d'Alzheimer ou apparentée. Je vous remercie.
Merci beaucoup, madame, messieurs. Alors, on va circuler maintenant pour venir vous voir de plus près. Puis, si vous avez des questions, bien sûr, vous levez la main, vous n'hésitez pas à les poser. Il y a eu pas mal de chuchotements. J'imagine que vous avez quelques interrogations. Qui veut démarrer ? On va se donner une vingtaine de minutes pour vos questions. Donc, allez-y dès maintenant. Peut-être une que j'ai entendue juste derrière moi, sur le rôle de l'entourage, les aidants familiaux, on l'a beaucoup évoqué durant la soirée, c'est un rôle important, ils ont un rôle important. Je ne sais pas qui va répondre. Alors, avec un micro, s'il vous plaît.
Je crois que sans les aidants familiaux, c'est bien difficile de favoriser un maintien à domicile très longtemps. Donc effectivement, ils ont un rôle prépondérant, mais le piège, c'est l'isolement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a notion d'aidants familiaux, il faut vraiment essayer de faire appel à des aides extérieures, sinon la charge de travail risque de devenir vraiment trop lourde avec les années.
Ils sont formés ?
Ils peuvent être formés. On voit effectivement France Alzheimer qui effectue des aides à la demande vis-à-vis des aidants. Et puis maintenant, la Mutualité de la Vienne qui a l'air de mettre en place certaines structures pour aider, pour éduquer les aidants.
C'est là où il est très important d'anticiper. C'est au bout de plusieurs années que ces soucis vont arriver, mais il ne faut pas être brutalement confronté à la difficulté du quotidien. Et on a appelé le burn-out de l'aidant, hein, son épuisement qui est tout à fait légitime parce que le conjoint, il a souvent le même âge que le patient qui est malade. Et à cet âge-là, on peut avoir plusieurs pathologies médicales. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir soit un voisinage, soit des enfants en nombre et à proximité. Donc c'est capital de ne pas être dans le déni et d'accepter ces aides. Et l'anticipation permet au fur et à mesure d'accepter.
Vos questions, la première, madame. Je vais vous tenir le micro.
Bonsoir. Parmi les structures qui accueillent des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, j'ai vaguement entendu parler dans un autre département d'une structure qui s'appellerait un Cantou. Est-ce que vous avez ça dans la Vienne et qu'est-ce que c'est exactement ?
En fait, ce sont un peu les mêmes appellations pour hébergement temporaire, mais ça dépend des endroits, entre les cliques, les réseaux, les cantous, c'est un peu difficile, mais c'est également des EHPAD, les maisons de retraite, avec une partie qui permet effectivement l'hébergement, mais je ne suis pas sûr que le cantou permette l'hébergement la nuit, je pense que c'est peut-être que pendant la journée, hein, si je ne me trompe pas. Donc malheureusement, il y a beaucoup trop d'acronymes et de noms différents pour, au bout du compte, aider, soutenir au quotidien ou toute la journée. Donc, en tout, des clics et des claques, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais cela dit, c'est également une structure qui est aidante. Oui.
D'autres questions ? Une question.
Attendez, monsieur, avec le micro. Parce qu'autrement...
Oui, alors, vous levez bien la main et on vient vers vous.
La question était...
Voilà, madame. Madame, déjà. Voilà.
Oui, bonsoir. Est-ce que la perte d'odorat peut être liée à la maladie d'Alzheimer ?
La perte de l'odorat ?
Oui.
Oui, tout à fait, oui. Oui, ça a été décrit comme d'autres maladies dégénératives, Parkinson par exemple. Il peut y avoir une atteinte de l'olfaction à un stade très précoce. Hein. Mais c'est vrai que c'est rarement une plainte. Hein, contrairement à d'autres situations, c'est rarement une plainte des patients quand même. Oui. Mais en revanche, les structures qui contrôlent l'olfaction sont touchées.
oui.
Et tôt.
Mm-hmm. Est-ce que ça fait partie des questions qui sont posées aux patients ou pas vraiment?
Non, pas vraiment. Oui. Pas vraiment. C'est vrai que j'oriente pas, en tout cas personnellement, la discussion sur ce point.
C'est-à-dire que quand il y a la perte d'odorat, il y a aussi d'autres choses. Je veux dire, c'est pas uniquement ce facteur-là qui.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai tendance à tourner la discussion autour de ce qui gêne. Il y a des pathologies qui provoquent une perte de l'olfaction qui peut être extrêmement invalidante, où les patients ne n'identifient plus du tout ce qu'ils mangent. Et dans ces cas-là, oui, c'est un symptôme dont je tiens compte. En revanche, quand les patients s'en plaignent pas vraiment, je ne vais pas forcément chercher le symptôme. Et de plus, il y a une part de subjectivité, si vous voulez, en dehors de possibilités de tests là, qui permettent véritablement d'objectiver. Dans ces cas-là, ça peut avoir un intérêt pour faire un diagnostic précoce, par exemple. Si c'est en pure clinique, un symptôme dont le patient en fait, ne se plaint pas, aussi subjectif et variable entre les personnes, c'est difficile à interpréter.
D'accord.
Merci, madame.
Merci.
Qui avait une autre question, monsieur? Je vais vous tenir le micro. Je vais le tenir.
Oui,
sinon, vous allez me le prendre, donc je vais le tenir.
J'interviens sur la question précédente uniquement à titre informatif. Il existe deux concous à la résidence Pasteur, chacune de 14 lits. Uniquement à titre d'information.
Merci. Voilà, merci pour cette information, monsieur. Madame, je vais le tenir aussi.
Je voudrais savoir quelle est la différence entre la maladie d'Alzheimer et la démence sénile.
C'est une bonne question.
C'est une bonne question. Eh bien, en fait, si vous voulez, la définition de ces pathologies a changé avec le temps, même en l'espace des dernières années. La démence sénile, c'était le nom qu'on donnait à la maladie d'Alzheimer et à beaucoup d'autres démences jusqu'aux années 80, facilement. Et ensuite, on a parlé de maladie d'Alzheimer. On a parlé d'abord de démence d'Alzheimer. Et puis, au fur et à mesure qu'on l'apprenait de plus en plus tôt, on l'a appelé maladie d'Alzheimer. Et maintenant, si vous voulez, ça devient une discussion même très difficile avec les patients, puisqu'avec l'imagerie et les protéines, enfin les examens complémentaires, dont on ne disposait pas il y a seulement 10 ans, eh bien, il nous arrive de porter un diagnostic sur des symptômes qu'il y a 10 ans ne nous auraient pas permis de parler de maladie d'Alzheimer. Et donc, je suis quelquefois obligé de rassurer les patients en leur disant, attendez, c'est un trouble extrêmement léger. Ils me demandent, ils insistent pour dire « mais qu'est-ce que c'est ?» Je leur dis « bah, ça fait partie du registre très large des maladies d'Alzheimer ». Mais si vous voulez, je pense que moi, mon commentaire, c'est de relativiser un petit peu parce que des maladies très diverses qui portaient des noms il y a 10 ans, syndrome de Mésulam, syndrome de Benson, MCI, troubles cognitifs légers, en fait, elles portaient leur nom parce que le seul moyen de donner un nom, c'était d'identifier ces maladies, c'était les symptômes. Maintenant, elles sont regroupées sur la base d'examens d'imagerie et des protéines. Et pour beaucoup d'entre elles, on tombe sur des protéines d'Alzheimer. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que derrière le terme Alzheimer, qui recouvre en fait les fantasmes qu'on a pu avoir depuis des décennies, ne sont plus d'actualité, puisqu'en fait, finalement, on va porter un diagnostic d'Alzheimer, mais ça n'empêche qu'on va avoir des formes extrêmement hétérogènes et qu'il est impossible de comparer d'un patient à l'autre, avec des patients qui auront plutôt des formes très focales, des formes jeunes, des formes tardives, des formes très graves, évolutives, certaines qui touchent que la mémoire, d'autres qui touchent d'autres domaines. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que d'une part, le terme Alzheimer est, à mon avis, le terme le plus moderne, si vous voulez, remplace celui de démence sénile. Et d'autre part, c'est un terme dont il ne faut peut-être pas abuser non plus, parce qu'il recouvre des réalités très différentes.
La démence sénile, c'est un fourre-tout grossier qui reflète en fait le très peu de moyens qu'il y avait dans ces années-là. Et donc, on étiquetait vite démence sénile avec toute la blessure psychologique que cela pouvait donner. Et ça a fait du mal à la maladie d'Alzheimer, puisque la maladie d'Alzheimer est née avec le terme démence aussi. Et le terme dément est un terme à bannir.
Question suivante.
Oui, je voulais vous demander, est-ce que le patient est conscient de son état? Voilà. Moi, C'est pour ce que vous appelez la famille, les aidants. Et quelle attitude on doit avoir? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Voilà, ce qu'on fait
non,
comment
les signes que je vous ai montrés au niveau du cerveau, ces lésions-là, elles arrivent probablement 10 ans avant les premiers symptômes. Il est évident que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui accompagne le patient et sa famille pendant 10, 15 ans. Et donc, il y a forcément une phase initiale qui peut durer plusieurs années où le patient est tout à fait conscient et vit mal cette situation, et vit mal même parfois d'aller en accueil de jour, participer à des ateliers, parce qu'il considère qu'il est avec des gens beaucoup plus atteints que lui, et que c'est hors de question. Donc, il y a une phase qui est forcément très mal vécue. Et puis, il y a aussi une phase où, effectivement, quand on voit le patient en consultation, si on demande de quoi vous plaignez, de rien, je vais bien, je sais pas ce que je fais là. Et là, c'est plus... Alors, non, ça, c'est pas du déni, c'est juste une non-perception.
C'est très important parce que ça, c'est un vrai symptôme. Donc, il y a la nosognosie dont on a entendu parler. Mais c'est-à-dire qu'en même temps que le patient perd la mémoire, cette mémoire-là bien spécifique dont Colline vous a parlé, la mémoire épisodique, c'est aussi un petit peu la conscience de soi. Donc, le patient oublie qu'il oublie et donc ignore son trouble. Donc, il peut en avoir conscience indirectement au début. Et puis, il est vrai qu'assez constamment, après, il perd cette conscience. Et donc, ça a des conséquences, effectivement, sur la gestion des patients. On va passer graduellement d'une situation où on peut, effectivement, il a son autonomie, il faut respecter son avis, bien évidemment, et puis jusqu'au bout. Mais il faut savoir quand même passer à un stade un peu d'hétéronomie. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours bien, à mon avis... chez quelqu'un qui n'est plus en mesure de prendre les bonnes décisions, de le laisser seul, dans un état presque d'isolement, où finalement il se trouve perdu. Et donc, souvent en consultation, il est obligé de faire ce diagnostic aussi, de dire c'est le moment pour la famille de prendre en main les choses, et devant le patient, en toute transparence. Alors évidemment, ça génère des tensions, des choses comme ça, mais il y a un moment donné où face au patient, je leur dis, il faut passer la main. Il faut passer la main vous avez un entourage qui vous veut du bien. Il y a des choses dont vous savez très bien que vous ne les gérez pas parfaitement. Et donc, des situations complexes, ces situations complexes, il faut les laisser prendre en charge par votre entourage.
Et c'est une grande difficulté du quotidien, et le médecin traitant est confronté à ça en permanence, c'est que vous voulez mettre en place des aides, mais ça ne le fait pas, parce qu'elles ne sont pas bien accueillies, parce qu'il y a de l'opposition. Et c'est là qu'il faut vraiment accepter toutes les aides qui existent, c'est-à-dire aujourd'hui les réseaux gérontologiques, demain la fameuse Maya qui aidera pour ces cas difficiles à piloter au mieux l'intégration du patient dans le réseau de soins. Et c'est là où il faut aller partager ses expériences auprès de France Alzheimer ou autre pour voir. Mais c'est vrai qu'on a toujours une phase très difficile d'acceptabilité de ce qui peut être fait, d'une famille qui culpabilise énormément parce qu'elle a l'impression d'imposer pour le bien du patient, quelque chose que de prime abord il refuse ou que la famille est persuadée qu'il refuse. Donc, effectivement, des phases parfois très difficiles à appréhender. Oui.
J'ai une question écrite. Est-ce qu'il y a un âge, parce qu'on a beaucoup parlé d'âge, où l'on commence à diagnostiquer Alzheimer? Est-ce que c'est uniquement pour les personnes dites âgées ou alors est-ce qu'il peut y avoir des cas plus jeunes?
Il y a des cas plus jeunes. L'âge, c'est 70 ans, le plus souvent. Il y a vraiment un pic à 70 ans. Après, évidemment, ce n'est pas qu'à cet âge-là, il y a des formes plus tardives. Et puis, il y a des patients plus jeunes, il y a des formes même génétiques qui sont très rares, hein, donc il ne faut pas trop parler parce que après, ça rentre dans le débat, mais c'est exceptionnel. Hein. Les formes authentiquement génétiques, hein, qui peuvent toucher des sujets de 20 ou 30 ans. Mais sinon, ça peut concerner des personnes de 50-60 ans.
D'accord.
Avec d'ailleurs une présentation clinique différente.
D'autres questions? Alors, on va aller vers monsieur d'abord, et je viens vers vous après, madame.
Merci. En termes de diagnostic, il semble qu'on évolue bien. En termes thérapeutiques, médicamenteux, on a des aides.
En termes diagnostiques, on évolue. On évolue. C'est des progrès incroyables et à la fois on est très prudent parce que ne faisons pas dire n'importe quoi à telle image. Hein. Donc il faut vraiment une grande expertise, mais il y a eu une évolution impressionnante au cours des 10 dernières années et en thérapeutique, mais ça n'a pas été aussi bon. Sauf que plus on va être bon en évolution diagnostique, plus on aura des chances d'essayer des médicaments chez des patients qui sont véritablement Alzheimer. Je veux dire par là qu'il y a 10 ans, où il n'y avait pas tous les outils qu'on vous a présentés très rapidement ce soir, on donnait une étiquette d'Alzheimer assez rapidement à quelqu'un qui avait une plainte de mémoire plus ou moins avancée et qui pouvait peut-être participer à un essai de recherche médicamenteux, alors qu'il n'était pas si Alzheimer que ça. Il pouvait avoir une participation vasculaire, des problèmes psychiatriques ou autres qui se surajoutaient. Aujourd'hui, grâce à ces outils diagnostiques, on recrute des volontaires qui ont vraiment un profil Alzheimer et qui donnent ainsi beaucoup plus de sens au médicament qui va être testé. Et effectivement, les essais qui sont menés depuis 2-3 ans avec Foucault, les patients qui acceptent de participer à ces essais, on n'a connu que des échecs. Mais la recherche, sa force, c'est d'apprendre de ces échecs et de comprendre pourquoi on a échoué. Et le vaccin Alzheimer, qui avait été testé la première fois dans les années 90 avec un échec retentissant, depuis les échecs de l'année 90, on a progressé, donc on fait des progrès. Mais c'est sûr que si on regarde le plan Alzheimer que Barack Obama a seulement ouvert cette année pour les États-Unis, l'espoir médicament, c'est probablement à l'horizon 2020-2025. Hein. Et en tous les cas, à des stades très légers. C'est là où c'est très compliqué parce que le déni peut retarder le diagnostic. Parce qu'évidemment, si on a, dès qu'on a un oubli, on arrive, on a Alzheimer en tête. Quoi. Donc on peut être légitimement dans le déni à ces stades très précoces. Et c'est pour ça très important en termes de suivi de filière, comme disait Pierre-Joseph Deltour, et en termes d'espoir thérapeutique un jour, qu'on puisse anticiper très précocement.
Voilà. Vous aviez posé votre question, monsieur, en intégralité ? D'accord. Madame, il nous reste une dizaine de minutes pour vos questions.
Oui, vous avez parlé tout à l'heure de nourrir notre cerveau. Alors, je voudrais savoir si, en nourrissant ce cerveau, on peut, puisque vous dites que c'est des protéines, on peut empêcher ces protéines d'arriver, enfin de s'installer.
Alors c'est, et comment bien nourrir son cerveau?
D'accord. Donc ça, c'est pas quid, personnes âgées quid. C'est une étude qui a été menée par l'Institut Santé publique de Bordeaux, en Dordogne et en Gironde, et qui a été menée il y a 22 ans maintenant, et qui a suivi des Dordogniers et des Girondins pendant le temps, et qui les a complètement analysés sur toutes les coutures. Et puis on a vu qui était devenu Alzheimer parmi ces volontaires qui participaient à la recherche. Et on a vu que ceux qui n'étaient pas devenus Alzheimer en tous les cas, c'est ceux qui avaient le réseau socioculturel et l'activité occupationnelle les plus développés. Donc c'est en cela qu'il faut vraiment nourrir son cerveau. Ça n'empêchera pas les protéines de venir au niveau du cerveau, mais ça donnera une force de résistance plus importante au cerveau, avec en gros un cerveau qui se défendra plus longtemps face à la maladie.
Et manger 5 fruits et légumes par jour. Non, autre mais chose, ça, mais ça alors, peut servir quand même.
Le vin de Bordeaux aussi est parfait. Mais ça veut dire que, alors à 70 ans, si vous n'avez jamais joué au Scrabble, vous n'allez peut-être pas vous mettre à jouer au Scrabble. Hein, si vous n'avez jamais fait des mots croisés, vous n'allez peut-être pas vous mettre aux mots croisés. Mais donc, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. En tous les cas, plus on se met tôt. Et il faut que ça soit ludique. Aucun d'entre nous, on fera quelque chose de manière pérenne si ça ne nous plaît pas. Donc, il n'est jamais trop tard pour commencer, mais il faut trouver des occupations, sortir de chez soi. C'est vrai qu'il y a un rôle économique qui joue. Si on habite à 20 km du centre-bourg, qu'on n'a pas de véhicule, c'est plus difficile que si on habite en centre-bourg, etc. Donc, il y a plein de choses à anticiper pour nourrir ce cerveau.
Je voudrais juste prendre la parole un instant pour insister sur les troubles auditifs. Qu'il ne faut pas négliger les troubles auditifs. Pourquoi ? Parce que les troubles auditifs ne permettent plus de nourrir justement le cerveau des afférences auditives. Et elles sont très importantes. Et par rapport à la région stratégique dont je parlais tout à l'heure, la région multimodale du carrefour pariéto-temporo-occipital, eh bien c'est une région qui est très proche de la région auditive primaire gauche. Et si l'on ne corrige pas les troubles auditifs, eh bien le cerveau perd l'habitude d'être stimulé par les afférences auditives, et ça c'est très très mauvais pour la suite. Des études ont été menées sur les troubles auditifs et ont montré que les carences auditives favorisent l'installation de la maladie d'Alzheimer. C'est un facteur de risque et je voulais vous dire ça. Voilà.
Merci de la précision. Je viens vers vous.
Est-ce une maladie héréditaire ou y a-t-il une forme de héréditaire ?
Donc, la forme héréditaire existe, mais est heureusement rarissime. Cela dit, les gens et les familles qui sont touchées, c'est déjà beaucoup trop. Et donc, c'est que Foucault du Bois-Guenec précisait tout à l'heure. En France, je ne me trompe pas, mais Jacques-Henri, l'association France Alzheimer est là. Je pense qu'on a 6000 Alzheimer jeunes, et probablement que ce sont des formes héréditaires, et qui sont heureusement peu importantes. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde va faire la maladie d'Alzheimer. On peut penser qu'à 80 ans, 20% d'entre nous, on serait potentiellement des patients Alzheimer en puissance, mais on n'exprimera pas forcément la maladie si notre cerveau a été bien nourri et s'est défendu. Et ça, ça veut dire qu'il y a probablement, à côté de cette forme héréditaire bruyante et qui arrive tôt dans la vie, qu'il y a ce qu'on appelle des gènes de susceptibilité et qu'on a peut-être les uns les autres un risque un peu plus élevé de faire la maladie si on a ces gènes. Aujourd'hui, c'est une recherche qui est menée à l'échelon de l'Europe. Et peut-être que d'ici quelques années, on dira que certains gènes qu'on peut trouver avec une prise de sang pourraient entraîner un risque d'eux, avec toute la prudence. Moi, ça ne m'intéresse pas trop de savoir ça tant que je n'ai pas un médicament à proposer derrière. Hein, se mettre une épée de Damoclès sur la tête alors qu'on se plaint de rien, ce n'est pas très, très séduisant.
Autre question ?
Oui, alors je vous remercie, monsieur, d'avoir parlé des personnes qui, enfin des problèmes auditifs. Moi, je voudrais savoir si toutes les personnes qui ont des problèmes auditifs peuvent développer la maladie d'Alzheimer. J'espère que non.
Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était c'était en lien avec votre précédente question, à savoir comment nourrir son cerveau. La première chose, c'est de ne pas couper les afférences sensorielles. La vue est importante, c'est 65% des entrées sensorielles de notre cerveau, c'est la vue. L'audition est une forme très importante aussi, on sait très bien que la vue s'altère avec l'âge, l'ouïe aussi. Et quand les gens veulent s'isoler, on sait très bien que quelqu'un qui entend mal et voit mal va s'isoler d'autant plus, notamment quand on est dans une assemblée comme ça. Si vous n'entendez pas, eh bien vous n'allez pas participer aux discussions pour quelqu'un qui est en maison de retraite. Si vous êtes malentendant, vous n'allez pas discuter avec les autres et vous n'allez pas nourrir les échanges et vous n'allez pas écouter la radio ni la télé, etc. Et ça, c'est très, très mauvais. Bon, il est évident que tous les malentendants ne vont pas développer une maladie d'Alzheimer, mais on sait parfaitement que, et ça a été montré sur des études, que les troubles de l'audition peuvent favoriser.
Question écrite, combien de temps y a-t-il, se passe-t-il en moyenne entre un premier rendez-vous et un début de traitement éventuel. Parce qu'on a eu l'impression effectivement tout à l'heure que ça pouvait être assez long avec toute une phase de test, etc.
Un premier rendez-vous en pratique chez nous, somme des heures de Poitiers. Moi, premier avis, je les mets en priorité. Donc, un mois, deux mois d'attente. Si c'est trop long, je les avance. Et ensuite, le bilan neuropsychologique, en général, se fait le même jour que la consultation. Après, il y a un délai d'un mois pour envisager un bilan qui se fait en hôpital de semaine ou en gériatrie avec imagerie, ponction lombaire. Le résultat de la ponction lombaire met 6 semaines et donc ça nous fait 3 mois minimum. On va dire 3 mois minimum pour du moment où on consulte, du moment où on se plaint, où on demande le rendez-vous, jusqu'au diagnostic complet avec le traitement.
D'accord.
Ça peut paraître trop long, mais il faut vraiment relativiser et pas se stigmatiser sur 2 mois, 3 mois, 4 mois d'attente. Je vais vous imaginer ça. Quand un patient vient pour trouble de la mémoire, et qu'on est au mois d'octobre 2012, et vous lui demandez depuis quand vous avez cette plainte, il va vous dire « c'est depuis Pâques ». Et si vous interrogez son conjoint, il va dire « déjà à Noël dernier, on avait senti quelque chose ». Et les enfants qui viendraient un peu plus occasionnellement diraient « ça fait bien 2 ans qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude ». Donc c'est toujours trop long quand on est patient de devoir attendre ces rendez-vous. Bien sûr, c'est insupportable. Mais dans cette maladie qui a une histoire très très longue, pardon de me permettre de dire qu'on n'est malheureusement pas à 3 mois près pour avancer et apporter les aides.
Y a-t-il une relation entre la maladie de Parkinson et celle de l'Alzheimer ?
Non, il n'y a pas de relation. Pas de relation, il y a quelquefois des maladies de Parkinson qui peuvent donner des troubles cognitifs, hein, mais qui appartiennent au spectre de la maladie de Parkinson, hein, au registre, qui porte un autre nom. Mais il n'y a pas de lien. On peut faire d'ailleurs, comme c'est des maladies fréquentes, on peut faire à la fois une maladie de Parkinson et une maladie d'Alzheimer, mais il n'y a pas de lien établi entre les deux.
On nous demande aussi, est-ce que la dépression peut favoriser l'apparition de la maladie d'Alzheimer ?
Alors ça, c'est une discussion assez subtile aussi, parce que, en fait, souvent, les familles datent l'apparition des symptômes d'un événement. Et on va volontiers incriminer un deuil, un événement dans la famille, dans la vie, qui va révéler, en fait, les troubles de la mémoire, et on va dater la maladie de cette époque. Moi, je ne veux pas être affirmatif parce qu'on sait, on sait pas tout, mais on n'a pas d'argument aujourd'hui pour dire qu'un événement psychologique puisse causer une maladie neurodégénérative. En revanche, on a fortement l'impression que la maladie peut être quiescente, invisible pendant des années, hein, avoir évolué depuis 10 ans, et puis franchir, qu'il y ait un abaissement du seuil de révélation des symptômes sous l'effet d'un choc psychologique. Un choc psychologique nous fragilise, nous perturbe. C'est un événement qui est extrêmement nouveau et l'Alzheimer touche des centres, comme la mémoire, qui contrôlent l'adaptation à la nouveauté. Et donc, il n'y a rien de surprenant à ce qu'il y ait une coïncidence entre le diagnostic de la maladie et l'apparition et un choc extérieur. Mais je dirais que c'est simplement un facteur révélateur, quoi.
Allez-y.
Oui, il faut que je m'en souvienne.
Ah, ça commence mal. Vous en avez 5 devant vous, ils vont pouvoir vous aider.
Est-ce qu'on peut parler de maladie d'Alzheimer chez un patient qui aurait eu un AVC quelques années auparavant ?
Non, c'est des maladies indépendantes. Ces maladies indépendantes, alors après, elles peuvent se potentialiser, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une altération cognitive pour mille raisons. Hein. On peut faire la démence, il y a des démences vasculaires, des démences liées à des tumeurs, tout peut donner une démence. Il suffit qu'il y ait plusieurs régions du cerveau et des régions associatives, et puis spécifiquement liées à l'hippocampe, qui soient touchées pour qu'on ait un tableau d'Alzheimer. Un patient qui a l'alcoolisme, on le sait très bien, donne des syndromes qu'on appelle le Korsakoff, hein, qui donne une amnésie extrêmement grave, qui peut ressembler quelquefois en tout point à une maladie d'Alzheimer. Donc, une fois de plus, on a distingué tout à l'heure la clinique, la topographie et l'étiologie. Et donc, quand on a identifié un syndrome amnésique qui oriente vers une localisation hippocampique, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une maladie d'Alzheimer en tant que maladie neurodégénérative. C'est vrai que c'est le plus fréquent, surtout si c'est une installation progressive. Mais on peut avoir la surprise de découvrir une tumeur, un accident vasculaire cérébral ou autre chose. En revanche, avoir plusieurs pathologies, ça c'est possible. On peut avoir fait un accident vasculaire cérébral et développer conjointement une maladie. On a parlé du Parkinson, on peut faire plusieurs maladies neurologiques, hein, c'est clair.
Alors, une question ici, une question ici.
Est-ce que la vitesse d'évolution de la maladie d'Alzheimer est constante ou en augmentation ou en diminution en fonction du temps ? Et quelle est l'influence sur la durée de vie du patient atteint de la maladie ?
Chaque individu est unique. Donc, difficile. Parce qu'il peut ne pas y avoir que la maladie d'Alzheimer, il peut y avoir d'autres complications qui viennent, que ce soit d'origine cardiaque ou d'origine vasculaire, qui peuvent bien sûr aggraver la situation et accélérer malheureusement la perte d'autonomie. Les traitements dont je parle d'aujourd'hui, on sait qu'il y a des patients qui répondent très bien à ces traitements et d'autres qui répondent moins bien, mais on ne sait pas du tout préjuger de qui va être un bon répondeur et qui ne sera pas un bon répondeur à l'avance. Donc ce qui est très important, c'est que chaque individu est unique, c'est à la fois vrai et à la fois très important à faire comprendre, parce que cette maladie est aujourd'hui quelque chose de particulièrement moche quand on parle de maladie d'Alzheimer, et donc c'est en train d'une souffrance suffisante comme ça, donc il ne faut pas forcément se voir comme on voit comme on regarde un autre patient, et vraiment chaque individu est unique. Oui.
Question de Madame Devant. Est-ce que vous avez des questions ? Ici, je viendrai juste après.
Oui, je voudrais vous demander à partir de quel moment vous arrêtez de, à partir de quel âge vous arrêtez de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer.
Quand un patient vient, c'est qu'il y a une plainte. Donc c'est une plainte. Notre boulot de toubib, c'est de pallier la plainte du patient. Donc il n'y a pas d'âge.
T'es d'accord?
Oui, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Peut-être que le bilan est un petit peu différent.
Voilà. En revanche, il y a des explorations qui sont plus... Enfin, ce qui importe, ce n'est pas l'âge. Le problème, c'est l'autonomie au quotidien. Il y a des gens à 85 balles, ils pètent le feu et on ira leur faire tous les examens comme des gens plus jeunes. Et puis des gens plus jeunes où malheureusement la maladie n'a pas été diagnostiquée et on arrive à une perte d'autonomie importante, et bien on n'ira pas les embêter avec éventuellement une IRM cérébrale, des examens encore plus compliqués. Donc ce n'est pas un problème d'âge, c'est tout simplement un problème de patient et de sa vie à lui. Voilà.
Allez-y, madame.
Oui, j'ai remarqué qu'il y a de nombreux EHPAD qui recevaient justement des malades d'Alzheimer, qui avaient donc des unités protégées pour malades, et que les traitements et la prise en charge étaient en fonction des établissements différentes. Pour des personnes malades et qui arrivent, si je puis dire, en phase terminale de la maladie, quels sont les recours possibles pour les familles et pour améliorer justement cette prise en charge? Et quels sont les établissements sur Poitiers qui seraient plus spécialisés pour assurer une prise en charge adaptée à ce type de maladie?
Je crois que la prise en charge au sein des EHPAD s'est quand même notamment améliorée depuis l'avènement du plan Alzheimer et les conventions tripartites, puisque toutes les maisons de retraite maintenant qui s'appellent des EHPAD sont médicalisées. De gros progrès sont faits quand même. On se rend compte que beaucoup d'EHPAD maintenant ont leur unité Alzheimer et beaucoup d'EHPAD vont se doter de PASA. PASA, c'est des pôles d'activité et de soins adaptés qui correspondent à des patients qui ont une maladie d'Alzheimer moins évoluée et qui sont susceptibles de bénéficier d'une stimulation cognitive adaptée. Donc, je crois que à chaque patient, on va essayer de faire correspondre un petit peu un programme personnalisé. Maintenant, pour les patients qui sont vraiment à un stade très, très avancé, je dirais plutôt qu'on est quand même dans une phase un peu palliative. Et quand on est dans le stade où, assurer les besoins vitaux et faire en sorte qu'il n'y ait pas de souffrance, de douleur, de choses de ce style. Donc, je crois que chaque cas est un cas particulier. Je crois que les EHPAD ont fait de nombreux progrès. Plusieurs EHPAD ont des unités spécialisées. Bon, je pense que assez facilement, si vous allez au réseau ville, hôpital de gériatrie, vous pourrez avoir des renseignements à ce niveau-là.
Merci. Dernière question.
Oui. D'une part, vous disiez que les malades ont besoin d'être stimulés intellectuellement. Et d'autre part, on a l'impression que les changer leurs habitudes, etc., les bouger, les déplacer, ça les perturbe. Donc comment trouver le bon équilibre entre à la fois une stimulation, contact avec la famille, avec faire du tourisme, pourquoi pas, et puis pas désorienté, déstabilisé.
C'est vrai que c'est un équilibre à trouver. C'est vrai qu'une hospitalisation, par exemple, est très déstabilisante. Donc, dans la mesure du possible, il faut essayer d'éviter. Tout dépend des stades de maladie et tout dépend des individus. Je crois que... Mais je pense qu'il est quand même nécessaire d'essayer de donner des activités, de stimuler un peu la mémoire, de stimuler les activités praxiques, de façon à préserver une autonomie le plus longtemps possible.
Ce qui est très important, c'est la sérénité de l'environnement familial. Et face à cette sérénité, on a un patient qui, à un stade avancé, présente ce qu'on appelle une apathie, avec une perte de l'élan, de l'initiative, et qui finalement, si je reste dans mon fauteuil avec la télé qui est allumée mais que je ne regarde pas, bon, je m'en plains pas tant que ça, et c'est très dur à supporter pour l'entourage. Donc, cette réserve cérébrale, à ce stade-là, c'est évident que forcer à faire des activités, ça ne sert pas à grand-chose. Il a sa personnalité et vous ne me ferez pas faire moi quelque chose que j'ai jamais eu envie de faire, hein, c'est pas la peine. Et puis parfois, on se voit dans les accueils de jour où il y a un peu d'activité, où c'est la famille qui est très surprise parce que tiens non, il a jamais fait ça et puis vous lui faites faire ça, moi je suis pas tout à fait d'accord, il aimait pas faire ça. Donc c'est vraiment sérénité qui est le maître mot, et pour arriver à cette sérénité, eh bien, il y a des choses qu'il est encore temps de mettre en place, d'autres choses qu'il faut accepter de plus mettre en place, et puis toujours réévaluer. Il n'y a pas de vraie vérité. Chaque semaine, chaque mois, il peut y avoir des événements à mettre en place ou à arrêter pour une raison X ou Y. Mais le confort du patient et la sérénité de la famille, ce sont les maîtres mots.
Merci. Encore les deux dernières questions. Je vais commencer par vous, monsieur.
Tout simplement, le stress. Qu'en pensez-vous ?
C'est pas bon.
C'est parfois bon.
Non, ça rejoint un peu les mêmes questions. C'est-à-dire qu'on peut pas. Il y a un curseur qui est difficile. Il faut à la fois laisser faire au patient le maximum d'activité, tout ce qui lui plaît, en fait, sans aller au-delà pour. Et puis en même temps respecter le fait qu'il soit un peu perdu dans un environnement qui lui est étranger et le fait qu'il se replie. Donc il y a un curseur qu'il faut respecter. C'est clair que le soumettre à des activités... Alors il y a des gens qui sont très demandeurs, hein, donc on a dit à l'instant, c'est au cas par cas. Souvent je mets en garde, je dis attention, vous voulez partir en voyage à tel endroit, mais méfiez-vous, c'est déstabilisant. Souvent on observe au retour qu'il s'est perdu dans l'hôtel, etc. Mais il y a des gens qui adorent et qui vont le vivre très bien. Pour peu que... d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, le point d'accroche, le point d'ancrage le plus fort, c'est plus le conjoint, les proches, que l'environnement physique. C'est très curieux, ça. Ça pour moi, c'est un objet de surprise. C'est-à-dire que on pourrait croire que, par exemple, partir dans une structure... C'est pas tellement changer de structure ou déménager qui va être le plus déstabilisant. C'est souvent de ne plus avoir le proche. Et souvent, les familles décrivent qu'ils s'appuient constamment en fait sur le proche, qui devient véritablement un été. Et donc c'est vrai que par rapport à votre question sur le stress, oui, il faut respecter ça. Si on voit quelqu'un qui est maladie d'Alzheimer et qui est en difficulté face à une situation, une gestion de facture. Une conduite trop loin ou trop de monde autour de lui, etc., dans la famille, il faut respecter ça, c'est-à-dire qu'il est dépassé. Il ne peut pas traiter toute cette information. Et le stress est un facteur d'émergence des symptômes. Donc, c'est un petit curseur, c'est un signe du curseur. Il faut se mettre juste en amont.
Dernière question.
Oui,
plein de questions encore. Alors, je vais vous demander de faire très rapide. On va se donner encore 5 minutes parce qu'il faut conclure. Et puis, vous pourrez continuer, bien sûr, à discuter après. Alors, 1, 2 et 3.
Merci. Vous parliez tout à l'heure, je crois, d'une présentation clinique différente pour les gens de 50 ans, par exemple, ou pour les gens de 70 ans, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, donner quelques précisions concernant la catégorie des gens de 50 ans, par exemple ?
Eh bien, en fait, ce qui a été observé, c'est qu'il y a plus de formes néocorticales chez les patients jeunes, je vais dire ce que c'est, et puis des formes plutôt l'archéocortex chez des gens âgés, 70 ans. Ça veut dire que c'est l'hippocampe qui est touché en priorité. On rentre dans la maladie plutôt avec l'hippocampe et la mémoire quand on a 70 ans. Et quand on a 50 ou 60 ans, on voit plus de formes néocorticales, c'est-à-dire des fonctions aphasiques, apraxiques, agnosiques, qui néocortex, donc la convexité du cerveau, qui sont plus récentes dans l'évolution. Et la maladie peut commencer par ces régions.
Madame.
Alors, avec la nouvelle réglementation de la Haute Autorité de Santé, les médicaments, le traitement médicamenteux doit être réévalué à 6 mois, puis à 12 mois. Comme vous parlez d'un bénéfice faible, comment est-ce que concrètement cette réévaluation va être faite pour continuer le traitement ou bien l'interrompre ?
Ce qui est très important, plutôt que la réévaluation, c'est-à-dire que le patient est dans un suivi, c'est-à-dire qu'il est revu régulièrement. Et donc à partir du moment où on réévalue pas que le médicament Alzheimer, on réévalue plein de choses par rapport aux patients que l'on voit. Et Aujourd'hui, après, c'est un échange avec le médecin traitant. Alors, je ne sais pas comment il devra être formalisé, parce que ça sera peut-être compliqué qu'on arrive à s'asseoir les uns les autres en même temps. Malheureusement, on aimerait bien, mais on ne trouvera pas le temps. Mais on peut s'écrire. Après, c'est est-ce que le médicament est pris ? Est-il pris, oui ou non ? Et comme tous les autres médicaments du quotidien, est-ce que le médicament est bien toléré ? Oui ou non ? Depuis quand il était pris ? Est-il pris à dose optimale ? Oui ou non ? Et à partir de là, s'il est bien toléré, s'il est pris à dose optimale, moi j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'arrêter au bout d'un an, parce qu'en termes d'un an, on sait que c'est une maladie, évidemment, qui décline, mais qui décline très très lentement. Et un an après les diagnostics et la mise en route du traitement, les patients ont encore une autonomie qui ressemble à celle du diagnostic. En revanche, probablement que 3, 4, 5 ans, il faut se poser les questions. Mais je crois qu'il n'y a pas de censeur pour dire il faut continuer jusqu'au bout ou il faut arrêter. Non, je crois que nous, on a un patient, on a une famille, on a une histoire. Et à partir de là, on fait les choses le plus sereinement possible.
Merci. Pierre,
Oui, non, je pense que l'arrêt du traitement ne se pose pas tellement au bout d'un an. Il peut éventuellement se poser sur des cas terminaux. Bon, là, franchement, des fois, on se dit que bon, le traitement peut l'arrêter.
Comme tous les autres médicaments.
Dernière question.
Oui, merci. À partir du moment où vous détectez, vous décelez la maladie d'Alzheimer, je voudrais savoir si elle est forcément évolutive.
Chaque individu est unique et cette forme de réserve cérébrale, cette défense qu'on a mis dans notre cerveau va faire que effectivement des patients vont évoluer beaucoup moins rapidement que d'autres. Alors probablement parce qu'ils auront eu la chance de mieux nourrir leur cerveau. Foucault, tu as peut-être... Mais vraiment, aujourd'hui, et c'est là où probablement on n'a pas été très très bon, c'est qu'après 10 ans de cette maladie où on travaille dessus, on n'arrive pas à prédire. Alors quelque part... C'est pas très, très grave, mais voilà. La réponse aux médicaments et l'évolution de chaque patient est vraiment individuelle. C'est-à-dire que des patients qui seraient Alzheimer pur, sans rien d'autre, eh bien, ne vont pas évoluer pareil parce que leurs habitudes de vie, leur cerveau sont différents. Et après, les patients sont rarement Alzheimer pur, quid des autres événements de la vie, que ce soit les pathologies cardiaques, les pathologies endocriniennes, le stress, la dépression, la qualité de vie familiale, etc. etc. Donc énormément d'événements viennent se surajouter.
Merci. Voilà deux... Ah, allez, je lui ai promis le dernier. Le dernier, je lui ai promis. Voilà, ça fait 2 heures qu'on discute, on pourrait refaire un autre sujet, non. Je pense qu'il va falloir...
Écoutez, on apprend beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses ce soir.
Et c'est pas fini.
Je voulais simplement dire qu'on a beaucoup parlé de la maladie d'Alzheimer, mais ce qu'il faudrait, c'est que l'on puisse continuer très longtemps à regarder les malades d'Alzheimer. Ce sont des vivants, ce sont des hommes et des femmes qui sont aimés et que l'on a besoin de rencontrer. On a besoin de leur donner un regard. On a besoin de leur donner la vie et de recevoir la vie. Voilà ce que je voulais rajouter. Il y a une petite exposition là dans le couloir qui montre que nos malades ont besoin de notre regard.
Je crois qu'il n'y a rien à rajouter, effectivement. Alors, vous avez tous retenu une chose, il faut nourrir son cerveau. C'était la chose à retenir pour ce soir. Je voudrais une nouvelle fois que vous applaudissiez nos intervenants de ce soir qui ont été brillants. Ainsi que toute l'organisation, le CHU, Vanessa et Zoé qui sont juste derrière nous. Il y a également l'espace Mendès France, Christine qui est là. Il y a plein d'expos Mendès France, il se passe toujours plein de choses. N'hésitez pas à aller voir tout ce qu'il y a. Il y a les petits dépliants qui sont là pour ça. On va remercier aussi l'équipe technique, les traductrices de langage des signes. Merci mesdemoiselles, parce qu'elles ont bien travaillé. Et puis vous également, bien sûr, vous allez pouvoir réécouter toutes les interventions sur le site internet de l'espace Mendès France. C'est pour ça qu'on vous a demandé de parler devant un micro. Pensez à remplir votre fiche d'évaluation. C'est pas pour vous mettre des notes, mais c'est simplement pour qu'on puisse améliorer encore ce rendez-vous. Et puis s'il vous plaît, je voudrais juste... S'il vous plaît, je voudrais juste terminer avec le prochain rendez-vous, qui sera le 13 décembre. Et nous allons apprendre à notre corps... à avoir une overdose de chocolat. Donc comment... Non, c'est pas ça. Nous allons évoquer la thyroïde. Ce sera le 13 décembre. Et c'est encore un sujet, bien évidemment, qui va vous intéresser, j'en suis persuadé. Merci, bonne soirée. À bientôt.